l'art en boîte.
Pourquoi l'art est si cher?
Doit-il être beau?
Faut-il être torturé pour être un artiste?
L'art en boîte,
l'émission qui rend l'art accessible et où les artistes répondent aux questions les plus sensibles. Une émission de Myrtille Maillot-Dequeiro,
un samedi par mois à 17h30 sur le 93.9.
L'art a beaucoup été débattu dans l'histoire. Artisanat, technique des arts, arts martiaux ou encore art du cirque, il veut finalement tout et rien dire. Pourtant, l'art est omniprésent dans notre quotidien. Il est mouvant, symptôme de notre société, résultat du sensible et parfois même politique. Il se décline sous de nombreuses formes, architecture, sculpture, art visuel ou cinéma. L'art a envahi notre histoire, mais comment le définir ? L'art, ça veut dire quoi ? L'art est-il de l'artisanat ? L'artisanat est-il de l'art ? Existe-t-il une véritable différence ? Longtemps indissociable de l'art, c'est au XVIIIe siècle que l'on entrevoit le commencement d'une distinction sous la plume de D'Alembert dans l'Encyclopédie. D'Alembert y distingue les beaux-arts de l'artisanat et des techniques sous le rapport de l'utilité. Selon lui, les œuvres d'art, contrairement aux objets techniques, n'ont aucune utilité pratique. Praticité que l'on retrouve dans de nombreux domaines artistiques, design, architecture, décoration. Alors, où se trouve la limite ? Des DIY les plus instagrammables aux influenceuses déco, la céramique est devenue virale. Pourtant, cet art est loin d'être novice. L'art de la céramique est le premier sur tous les types de production artistique. Pour ce premier épisode, nous nous intéressons à cet artisanat d'art, de son usage par les artistes contemporains au phénomène de fast déco. Comment cet art de l'objet s'est-il vu évoluer ? C'est ce que nous allons découvrir dans ce premier épisode de L'Art en boîte. Pour ce premier épisode, je suis avec la chercheuse Elisa Ullory-Laure, chercheuse en sociologie des arts au laboratoire de Mésopolis à Aix-Marseille Université. Vous êtes également enseignante. Merci d'avoir accepté de participer à ce premier épisode. Donc comme ça a été dit juste un petit peu avant, donc la céramique c'est un des artisanats les plus anciens. C'est le premier sur tous les types de production artistique, donc c'est vraiment un sujet très complexe mais également très riche. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à cet artisanat d'art ?
Alors j'ai grandi au sein d'une famille des céramistes, une famille des céramistes équatoriens. Et ma sœur aussi est céramiste. En fait, c'est par l'affiliation avec ce terrain que je me suis intéressée. Ma sœur provient là, par exemple, d'une résidence d'artiste en Chine. Donc, elle peut faire autant de la céramique très contemporaine. Elle prépare une installation et elle revient à la maison. Et elle travaille dans l'atelier que mes parents ont fondé il y a 40 ans. Et elle fait, comme dans beaucoup d'ateliers, de la vaisselle, des sculptures et parfois des installations. C'est par cette filiation avec le milieu et par l'observation de cette intensité des relations affectives qui vont se tisser autour de la pratique, mais aussi le lien avec la matière, le matériau de terre, qu'on constate en fait qu'il y a cet amour pour la terre qui va être aussi enveloppé par une sorte de système des tensions, des résistances, des complexités. Et donc c'est notamment par une rencontre qui a été assez cruciale que j'ai pu entamer cette recherche doctorale. Et c'est aussi en essayant de me détacher en fait de cette filiation que je vais observer cet engouement, en fait on est vers les années 2010, que je notais qu'il y avait cet intérêt pour la céramique au contact avec l'art contemporain. Ça s'est ensuite poursuivi par un intérêt pour le travail non seulement des artistes, mais aussi plus largement d'une communauté d'acteurs, que ce soit des collectionneurs, des galeristes, ou parfois les deux, mais aussi des institutions, des revues, et que je vais commencer à m'interroger en fait sur ces dynamiques fortes et de la céramique.
Merci. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de justement cette évolution, parce que donc c'est l'un des plus, des plus anciens justement types d'artisanat. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de cette évolution?
Oui, alors pour parler de l'évolution de la céramique, j'ai pris comme point de départ en fait cette socio-histoire qui a été établie par Flora Bajard, donc sociologue, sur le groupe professionnel des céramistes d'art. Ça va s'établir autour des trois temps. Et la première, c'est l'apparition donc de la céramique d'art en tant que telle, au début des années 20 par les déclins de la céramique traditionnelle et industrielle et qui va s'inscrire dans un processus d'artification en fait par ce qu'elle appelait les fondateurs et qui va se poursuivre ensuite et vers les années 70 par les bâtisseurs qui vont créer des liens ou des espaces en fait de diffusion, de valorisation, des sociabilités aussi autour de la terre. Ces artistes vont s'emparer de la céramique sous différentes formes, donc en reprenant des ateliers qui étaient un peu et voilà abandonnés par à la suite de ces déclins qui est porté par plein de facteurs. Elle parle d'une artification inachevée. Qu'est-ce que veut dire artification ? Alors, ce sont des micro-transformations des statues, que ce soit chez les acteurs de la céramique, céramistes ou autres, mais aussi des objets. Et donc là, on va voir aussi que les pratiques vont produire des changements, que ce soit symboliques, matériels, économiques, etc. Un exemple important là-dedans, ça peut être le fait de... Lorsqu'on parle d'un bol, en fait, ou d'un pichet, ou d'un vase, en fait, on part de sa dimension fonctionnelle. En parlant ensuite d'œuvre, on va quelque part faire un glissement linguistique qui va emmener la pièce, l'objet, vers un autre statut.
C'est intéressant parce que dans votre thèse, vous évoquez justement la manière dont les peintres, un peu, donc à l'époque... notamment dans l'art moderne, ils vont vraiment utiliser en fait la céramique comme moule, même pour faire des œuvres, etc. Et qu'après, en fait, la céramique est utilisée comme objet d'art. Donc à quel moment la céramique, elle devient donc non plus un art, enfin un artisanat, pardon, de la céramique, mais vraiment un art à proprement parler, à l'égal justement de la peinture traditionnelle.
Alors, concernant disons le cas de ces artistes qui sont considérés les maîtres d'art moderne, on parle souvent des Picasso, il y a Matisse, enfin, il y en a beaucoup qui se sont intéressés. Et cette action, elle consistait surtout à superposer un art sur un autre. Donc, voilà, on est dans une sorte de la céramique comme support. Mais ensuite, il y a des collaborations très intéressantes qui se déroulent, notamment celle de Picasso avec l'atelier Madura. Donc, c'est grâce à l'aide de Suzanne Ramier en 49, en fait, qu'il va beaucoup produire.
Pour comprendre cette référence, il faut revenir à ce qui s'est passé en juillet 1947. Cette année-là, après des vacances au soleil, Picasso décide de partir de Paris pour se réfugier à Valoris, cette petite ville de la Côte d'Azur entre Cannes et Antibes. D'abord accueilli comme un prince par les ramiers, il décide de s'y installer pour travailler dans l'atelier Madura, atelier créé par Suzanne Ramier qui était également céramiste. Ce qu'il faut surtout rappeler, c'est qu'à ce moment-là, Picasso est au milieu de sa carrière. Il y a déjà une importante notoriété dans le monde de l'art, c'est pourquoi très vite il comprend que cette céramique aura un prix. Mais comme la céramique, c'est surtout des objets et donc de l'utilitaire, il décide de démocratiser ses œuvres autour de ce qu'on va appeler les éditions Picasso chez Madura, qui seront éditées entre 20 et 500 exemplaires à des prix de vente abordables.
Le problème, c'est qu'on parle souvent de ce que Picasso... en fait, va apporter à l'atelier Madura et non pas vraiment l'inverse. Et donc, face aux échelles de légitimité qui existent, puisque la céramique, voilà, on sait, a été fortement marginalisée dans les marchés de l'art et dans les échelles de légitimité, tout simplement, déclassifier un peu les genres artistiques. La céramique est elle est porteuse de cette culture de métier qui est éminemment technique et matérielle, et elle va affirmer sa place au sein des mondes de l'art. Par contre, ce qui a fait évoluer ce rapport ou ce regard sur la terre, ça a été les façons de les montrer et comment, petit à petit, on a arrive à des formes de diffusion qui sont beaucoup plus transversales, beaucoup plus osées, entre guillemets. Et puis voilà, on peut parler de la céramique au même titre que d'autres arts. Et du coup, on n'est pas la faire disparaître, mais n'est pas non plus la mettre comme quelque chose d'extrêmement spécifique qui va un peu la regarder dans cet espace un peu marginalisé.
Est-ce que du coup, un peu, donc, toute justement l'historique de l'art de la céramique avec cette opposition qui était assez forte dans les années 70, donc, où en fait c'était principalement une revendication contre le capitalisme de faire de la céramique, et qu'aujourd'hui on va arriver vers un marché de l'art de la céramique qui est de plus en plus important, mais toujours bien sûr en dessous du marché de l'art des peintures ou d'autres arts plus majeurs. Qu'est-ce que ça provoque chez vous de voir cette opposition très importante?
Alors, sur la dimension politique, donc, de voilà, de ce retour à la terre, entre guillemets, ou de cet intérêt qui existe pour la céramique. En fait, et il y a déjà des travaux qui ont montré et un petit peu combien la considération des métiers manuels, donc artisanaux, sont l'expression d'une non-appartenance au système économique global. Donc c'est un choix de vie en tant que tel, et qui vont construire des normes et des valeurs autour d'un projet et d'organisation aussi très collective, mais aussi voilà, axée sur la liberté des créations. C'est dégagé comme une sorte de marché parallèle, en fait, qui est instable, précaire, mais assez constant, en fait, depuis l'apparition de ces espaces un peu de valorisation de la céramique. Il existe un marché de la céramique, certes, et il existe des collectionneurs qui ne sont pas très fortunés, mais qui sont très, très, très connaisseurs de ce qui se passe dans le monde de la céramique et qui sont, en fait, partie prenante de ce combat, de ce micro-combat, en tout cas. Personnellement, je peux considérer que faire de la céramique est un acte politique, acheter de la céramique est un acte politique, et puis voilà, il y en a qui pose aussi une question presque écologique, entre guillemets. Il y a ce mouvement « More clay, less plastic ».
More clay, less plastic. C'est un mouvement donc qui est créé en 2014. Leur objectif, il va être de remplacer les objets jetables du quotidien donc par de la céramique. Ce groupe, il propose une production céramique un peu comme solution pour sauver la planète. Il tente vraiment de substituer au plastique les matières naturelles comme la céramique.
Mais évidemment, voilà, on peut contredire, il y a beaucoup de contradictions là-dedans. Faire de la céramique n'est pas écologique en tant que tel. Et faire de la céramique en ville est compliqué, donc on utilise des fours électriques. Mais évidemment, pour utiliser un four à gaz ou un four à bois, bah, soit on mutualise, soit il faut avoir l'espace. Donc c'est des choses quand même qui posent des questions financières, économiques, d'organisation.
Vous évoquez les artistes contemporains comme Jeff Koons ou encore Ai Weiwei, et notamment leur manière d'utiliser la céramique en faisant appel à des artisans pour leurs projets. Alors, est-ce que selon vous, ces stars de l'art contemporain, ils sont un frein à l'évolution du marché de l'art, justement, de la céramique ?
Alors, je ne pense pas que les grands noms de l'art contemporain qui se sont intéressés ou qui ont travaillé la céramique dans leurs propositions artistiques viennent éclipser les noms de la céramique. En tout cas, je ne l'ai pas observé en tant que tel. Et en revanche, l'histoire de la céramique s'étant constituée en tant qu'histoire parallèle, qui a été très peu considérée, c'est un peu réécrit au fur et à mesure, où on a pu exposer des œuvres des artistes plutôt reconnus internationalement. Je pense à Grayson Perry, maintenant Joan Creten, à côté d'un chawan pour la cérémonie du thé, et qui est évidemment dans des mouvements où effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on affirme la rématérialisation de l'art face à une dématérialisation qui s'est opérée donc dans le monde voilà, de l'art contemporain notamment. Et je renvoie à cette idée des transgressions des frontières dans l'art contemporain qui est un peu caractéristique et que du coup va remodeler en fait ou va renvoyer ou remettre la focale sur d'autres empreintes de l'histoire de l'art et qui est voilà toujours portée sur cette espèce de technophilie où le fait qu'un artiste n'est pas obligé de apprendre toute la chaîne, tout le travail technique de la réalisation d'une œuvre céramique, mais qui peut faire appel à des personnes qui s'y connaissent et du coup créer ensemble. Et ce qui se passe pas forcément chez des grands, ce qu'on appelle les grandes stars de l'art contemporain.
Merci. Bah, du coup, par rapport à cette céramique contemporaine dont tu parles dans ta thèse, après, donc, aujourd'hui, on peut voir qu'on a vraiment une sorte d'évolution, donc, je dirais peut-être vers la surconsommation de cette céramique, parce qu'il y a une grande standardisation aujourd'hui avec un peu ce phénomène de phase déco. Est-ce que tu penses que nous sommes donc vraiment dans un phénomène à l'égal de la fast fashion en fait pour les vêtements avec la céramique et si oui, comment on pourrait lutter contre ce phénomène selon toi ?
Alors, j'ai déjà entendu parler de cette idée des gentrifications des métiers. La céramique a été beaucoup citée ou visée comme d'autres métiers d'art, et à même titre que la broderie, mais aussi voilà des métiers de la bouche. Enfin, voilà, il y a vraiment et cette idée-là. Et que la céramique peut s'inscrire aussi dans des mouvements qui reviennent sur cette nostalgie du passé, sur la mode vintage, sur ce retour du kitsch et la mode rétro. Ah, et oui. Donc, elle peut être vraiment attractive dans ce registre-là pour certains milieux en fait, de la société. Après, il y a aussi peut-être un rattrapage par l'industrie du luxe, de la déco, et dans l'utilitaire aussi, par des grandes marques, par des grandes industries. Mais quelque part, moi, je suis plutôt heureuse de voir tous ces petits ateliers qui en fait, vont permettre que les gens approchent la céramique, même par la question du loisir, une pratique très souple avec la matière et presque thérapeutique parfois. Et qu'à côté, il y a des grands ateliers mutualisés où on fait des cuissons collectives. D'un autre côté, effectivement, comme tu le dis, il y a cette idée d'un marketing autour de la céramique qui peut être aussi stimulant pour plein de ce qu'on appelle les néo-artisans. Et c'est intéressant parce que c'est des nouvelles façons de communiquer aussi. Et notamment, par les réseaux sociaux, on communique de plus en plus des choses qui auparavant étaient considérées un peu comme des secrets.
Un secret qui est basé sur la transmission. Comme nous l'a expliqué Elisa Hulurilor, la céramique est avant tout un artisanat de la transmission. Mais d'où vient la céramique ? Comment cet artisanat d'art a-t-il éclos ? Selon Jean Girel dans son ouvrage Une brève histoire de la céramique daterait d'au moins 30 000 ans. Il écrit « Le personnage officiant devant son four est le chaman de la tribu. Il sait prédire les destinées de son clan en soumettant à l'oracle du feu la question de l'argile. » Selon lui, le premier céramiste ne serait autre que ce chaman ayant jeté de l'argile au feu, déterminant à jamais le surnom de cet artisanat, l'art du feu. Est-ce que vous pouvez également nous expliquer la différence que vous faites donc dans votre thèse entre céramique d'art et d'artisanat ?
Pour moi, cette distinction, ça a été plutôt un partage méthodologique, non pas forcément d'appellation, mais c'est par la technique en fait et l'investissement de la technique que je vais essayer de comprendre comment on peut catégoriser cette céramique d'artisanat, la céramique d'art et la céramique d'art contemporain, qui va me permettre de comprendre un petit peu comment se mobilise cette rhétorique de l'ouverture de la matière. Donc, lorsque on voit qu'à la Biennale de Valoris, donc une Biennale des céramiques, et on présentait une œuvre d'Ewar et Jikel, par exemple, deux grands hippopotames qui étaient en terre crue, et donc parler de céramique alors que la terre n'est pas cuite était déjà une façon de transgresser le langage même de la terre. C'est un petit peu là-dedans que j'essaye de comprendre comment on est. Il y a des groupes qui sont majoritaires, comme les céramistes d'art en nombre. Ensuite, il y a des groupes qu'on appelait les céramistes des contemporains qui sont reconnus un peu dans les deux milieux, donc de la céramique et de l'art contemporain. Et ensuite, les artistes contemporains qui s'intéressent à la terre, qui sont un groupe minoritaire, mais qui, en fait, vont être vraiment dans ce partage et ils vont se positionner notamment vis-à-vis du monde de la céramique par la connaissance, la maîtrise d'un savoir-faire, la maîtrise des matières premières, l'argile, des oxydes, des émaux, fours, à gaz, bois, électrique, peu importe.
En ce qui concerne le patrimoine, donc on évoquait tout à l'heure un peu cette anthropologie où finalement l'objet permet de retracer et recréer des liens. Mais est-ce qu'on pourrait dire que l'art de la céramique, c'est aussi porteur de l'histoire, mais surtout symbole de la mémoire ?
Oui, je pense que chaque objet en céramique, au final, est un peu porteuse de cette histoire sociale des hommes et des femmes en lien avec la matière, le matériau terre. Et en fait, effectivement, je pense que la hiérarchisation en fait, des matériaux dans l'art a pu aussi se construire par rapport à cela. La céramique a toujours été considérée, et dans les musées on le voit très souvent, comme le témoignage de l'histoire des hommes et des femmes. Et du coup, et c'est un petit peu en décortiquant cela et en voyant que de plus en plus, il y a des musées d'archéologie qui deviennent ou qui commencent à se nommer des musées d'art et précolombiens. Et d'art médiéval, etc. Donc on accorde ce statut d'art aussi à ces objets qui sont en même temps des témoignages de l'histoire Et aussi, enfin, comme une sorte d'archive matérielle. Donc là, oui, effectivement, l'anthropologie, voilà, fait par l'étude de la culture matérielle, voilà, approche un petit peu tous ces gestes, ces rapports au monde des gens au fil des époques. Donc oui, la céramique, un peu aussi cette histoire, elle est le contenant en fait de cette histoire. Et quand on a un objet en céramique entre les mains, on porte aussi beaucoup cette chose-là. Donc il y a cette dimension symbolique et matérielle qui est très souvent revendiquée dans ce monde-là.
Mais d'ailleurs, cet héritage dont on parle, donc qui va être celui de la mémoire historique à travers l'objet, lorsque vous voyez de nombreux ateliers se créer justement avec certes un accès plus facile à cet artisanat, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il limite justement et peut-être qu'il entrave un peu cette mémoire ?
La céramique d'art, finalement, est un métier récent. Justement, il est né voilà, dans ce processus dont on a parlé, et dont Flora Bajar parle bien. Du coup, en fait, ces liens qu'on fait avec l'histoire longue de la céramique, cette histoire séculaire qui va traverser les époques, etc., elle se retrouve fortement dans les discours justement des céramistes qui la travaillent. Et après, effectivement, ce que j'ai pu montrer un peu par ma recherche, c'est que ce régime patrimonial qui revendique un besoin de préserver des techniques, des formes de faire, des formes qui viennent des traditions potières, etc., n'annulait pas le fait qu'on était aussi en train d'innover esthétiquement, artistiquement, et le métier. Et du coup, il y a un peu ce lien, du moins dans les discours. Ensuite, dans les objets aussi, c'est le traitement médiatique ou les traitements... en termes vraiment de la médiation qu'on en fait des objets qui va positionner cela. Mais oui, il y a des coupures et il y a aussi des continuités là-dedans, et ça va dépendre énormément des représentations sociales en fait qu'on véhicule lorsqu'on parle de son art ou de son artisanat, selon comment on se positionne.
Vous venez d'écouter le premier épisode de L'Art en boîte, une émission de Myrtille Maillot de Quéro. L'Art en boîte remercie Elisa Huliori-Laure pour sa participation. Pour réécouter cet épisode, rendez-vous sur le site de Radio Campus Paris, et on se retrouve le mois prochain.
L'Art en boîte.